Alors, on va peut-être revenir dans un premier temps sur la question de que recouvre cette idée de continuité. Est-ce qu'on a entendu peut-être dans les deux journées hier, on a beaucoup entendu parler de l'idée de cohérence, mais aussi cette idée d'une discontinuité avec une connotation positive. Donc ça, c'était tout à fait, tout à fait intéressant. C'était l'idée de construire sur la base de... la continuité peut se construire dans cette... dans une démarche ou dans un parcours finalement assez poétique, positif. C'est-à-dire que dans le chaos, disait une professionnelle hier, on peut construire un parcours de continuité dans une histoire de vie assez chaotique et assez avec des arrêts, des ruptures, des bifurcations. Donc on a cette idée de... on a retrouvé ça hier matin. On a entendu... je ne sais pas si je suis dans la bonne... sur les questions de définition... on va revoir ça avec les autres points de synthèse, mais il y avait l'idée qu'on ne pouvait pas penser cette idée de la continuité sans penser peut-être des redéfinitions, alors tant de la place de l'enfant, on va le voir, que de la professionnalité enseignante, ou de la place des professionnels ou du travail des professionnels entre eux. Donc à chaque fois a été évoquée cette idée-là. On a également, derrière cette idée de continuité, entendu l'idée de continuum dans la table ronde B, pour ceux qui y étaient, sur les liens école-famille, avec comment passer finalement d'une... Qu'est-ce qu'il y a entre la connivence et le malentendu ? Qu'est-ce qui peut finalement remettre du lien du lien dans les relations, mais aussi dans le travail entre les professionnels. On a entendu beaucoup de choses aussi autour du rapport entre visible et invisible. Alors hier, dans la table ronde, c'était l'idée de rendre l'invisible, l'implicite, visible. Ça aide dans la construction manifestement de la continuité, alors visible pour les parents, pour les familles, visible pour les professionnels avec lesquels on est amené à travailler. L'idée de continuité, il y a aussi l'idée de créer de l'alliance, dit un professionnel hier, un professionnel CPE, parce que je sais qu'il y a des étudiants qui se destinent au métier de CPE. L'idée aussi que cette continuité, elle ne peut se jouer que dans une démarche humaniste, sans jugement et avec beaucoup d'humilité professionnelle. Donc ça, la table ronde B, en tout cas, a beaucoup insisté là-dessus. Cohérence, confiance, dialogue, écoute, voilà. Et c'est des mots qui sont revenus, je pense, au cours des deux jours. Derrière cette idée de continuité, il y avait aussi, on va revenir dessus, mais cette idée des tiers-temps, des tiers-lieux, des temps interstitiels, des espaces intermédiaires, c'est-à-dire finalement inventer autre chose. Alors là, on vient de l'entendre aussi par rapport à la conférence, quelque chose entre peut-être la forme scolaire et puis le temps ou les espaces informels, quelque chose qui est à inventer entre les deux. C'est difficile de reprendre tout ce qui a été. On a retrouvé peut-être ce matin chez les professionnels qui travaillent dans le monde du handicap des idées, l'idée de qu'on n'avait pas croisé hier, qui est l'idée d'une synergie. C'est-à-dire la continuité, c'est pas seulement il y a l'idée d'un continuum, mais il y a aussi cette idée de trouver une direction ensemble. Donc ça me semblait, ce matin j'ai trouvé ça extrêmement fort. Apprendre à travailler ensemble, à se parler, on va revenir dessus peut-être après. L'idée aussi, alors toujours dans ces valeurs, on a entendu beaucoup de choses autour des valeurs. La continuité, finalement, dépend aussi des valeurs de chacun. Mais il y avait ce qui a traversé pour moi, c'était l'idée de respect, non seulement de respect des enfants, mais cette idée de respect réciproque, c'est-à-dire comment la continuité, elle se fabrique aussi à partir du respect réciproque les uns des autres. On pourrait raccrocher aussi continuité à l'idée d'espérance qu'a développé ce matin Denis Poisat. Alors, Denis Poisat, il était intéressant aussi sur l'idée de visibilité ou d'invisibilité quand il a évoqué l'idée de comment éviter la stigmatisation, l'étiquetage, sans pour autant invisibiliser, disait-il. Donc finalement, comment on nomme les choses, et derrière cette continuité, il y a ça aussi, c'est-à-dire quel langage finalement nous aide à penser tout ça. Voilà. Et puis, dans l'intervention, je ne vais pas reprendre l'intervention qui vient d'avoir lieu, mais je voudrais juste faire le lien. Il y a la première partie de la présentation de Valérie Mélin était sur la restauration d'une cohérence éducative. Donc, cohérence éducative, c'est quasiment le premier mot qui est arrivé hier. Et là, on conclut ces journées autour de cette idée de recherche d'une cohérence. Alors, il me semble que, synergie, prise en charge collégiale, enfin, il y a tout un tas de choses qui sont à penser, peut-être, ensemble. Je m'arrêterai là sur l'idée de ce qu'on a entendu.
Merci, Nathalie. Merci, Diane. Alors, moi, du coup, si je reprends un petit peu les deux journées qu'on vient de passer ensemble, moi, ce que je voudrais retenir, c'est que la plupart du temps, quand on est dans le champ de l'éducation, aussi bien dans les études scientifiques que quand on a des témoignages d'acteurs de terrain, très souvent, on va se focaliser sur ce qui dysfonctionne, sur ce qui ne va pas, sur les freins, sur les obstacles, sur les faiblesses du système. On entend beaucoup ce discours-là, et les chercheurs mettent aussi beaucoup en avant ce qui ne va pas bien à l'école ou dans d'autres sphères. Et je trouve que avoir proposé comme thématique la question de la continuité, ça permet de penser les discontinuités, ça permet de penser les ruptures. Mais en même temps, ça permet aussi de porter un autre regard, peut-être un regard un peu plus positif sur le monde de l'éducation et sur les acteurs de l'éducation, en pouvant souligner aussi quelles sont les forces, les leviers, les atouts qu'on peut trouver dans les différentes sphères. Alors c'est vrai que les élèves incasables dont nous parlait la collègue en PJJ, en protection judiciaire de la jeunesse, les élèves en situation de handicap dont on a parlé ce matin, les élèves décrocheurs dont Valérie Mélin vient de parler, ces trois catégories-là, pour ne prendre que ces trois exemples-là, sont des vrais analyseurs des dysfonctionnements de l'école ou de la forme scolaire qu'on veut essayer de leur imposer. Et en même temps, ce qui apparaît, c'est que c'est aussi de très bons analyseurs des outils qu'on peut mettre en place. C'est aussi de l'occasion de réfléchir peut-être autrement, ou de proposer d'autres pratiques que les pratiques habituelles dans le monde de l'éducation. Alors c'est sûr que ça remet en cause la professionnalité des enseignants, des éducateurs, des CPE, des AVS ou AESH, des ludothécaires, pour reprendre encore un autre profil qu'on a croisé. C'est sûr que ça bouleverse, ça remet en cause, ça réinterroge, mais en même temps, ça permet de prendre un peu ce recul et de mettre en avant, en fait, de voir comment est-ce que cette continuité éducative, au-delà du principe et des enjeux que Nathalie vient de souligner, peut aussi se déployer en actes et dans les pratiques. Et au cours soit des conférences, soit des tables rondes, on a eu un certain nombre d'exemples d'outils concrets qui permettaient de mettre à jour cette continuité éducative. Pour ne reprendre que quelques exemples, on a beaucoup parlé de temps de concertation qui était nécessaire entre professionnels ou entre professionnels et parents ou entre professionnels et jeunes, des temps de concertation qui sont peu prévus institutionnellement, et pourtant qu'il faut bien trouver quelque part. sur la relation parents-école, famille-école. On a aussi eu le café des parents qui a été évoqué par plusieurs CPE notamment. Ou enseignants, comme la possibilité de faire venir les parents à l'école, au collège, au lycée, de partager des choses ensemble au-delà des traditionnelles rencontres parents-professeurs qui sont souvent mal vécues, hein, soit par les jeunes, soit par les parents eux-mêmes, soit par les collègues enseignants. On a aussi entendu sur la première table ronde la possibilité d'un placement éducatif à domicile, qui était un petit peu une innovation, de se dire que plutôt que de placer en famille ou en foyer, en famille d'accueil ou en foyer, on pouvait maintenir à domicile en proposant tout un accompagnement autour des jeunes en difficulté. On a aussi entendu ce matin la possibilité d'avoir des intervenants pivots pour accompagner un certain nombre de jeunes, notamment avec troubles du spectre autistique ou autres, avec une autre façon un petit peu de concevoir ces dispositifs-là. Sur les décrocheurs, l'atelier biographique de projet présenté par Valérie Melun est un autre exemple possible d'une autre façon de faire. Alors, ce qui me paraît aussi important de dire, c'est que sur cette continuité éducative et sur ces différents outils, dont là je fais un peu un listing, mais juste pour mémoire, il n'y a pas de recette miracle. Et à chaque fois, les professionnels, comme les conférenciers, proposent de mettre en lumière des dispositifs qui ont été expérimentés. Ce n'est pas la solution universelle. Ça a pu marcher avec certains profils d'enfants, de jeunes. Voilà, pour certains professionnels, ça a fait sens pour des jeunes, pour des familles. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'avoir dans sa boîte à outils ces différentes possibilités pour se dire finalement que la continuité éducative, bah, ce n'est pas qu'un mot. Enfin, c'est pas qu'un principe, on va dire, qu'on trouve dans les textes officiels et puis dont on ne saurait pas trop quoi faire. C'est probablement quelque chose dont on doit saisir, qu'on doit essayer de mettre en œuvre. On tente, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas, mais ça nous amène peut-être les uns et les autres à re-réfléchir à nos façons de faire dans le monde de l'éducation au sens large. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est de se dire que finalement, la réflexion que ça va pouvoir prolonger, c'est ça, c'est-à-dire pas se focaliser que sur ce qui va pas, mais aussi de montrer comment est-ce que parfois, voilà, en changeant et en remettant en utilisant de nouveaux outils ou de nouvelles pratiques, on va pouvoir faire autrement, en espérant un jour pouvoir faire mieux.
Je te laisse deux choses pour compléter, puisque à la fois, vous voyez, je pense, beaucoup d'inventivité au niveau des professionnels. Ça, je crois qu'il faut le souligner. Beaucoup de créativité professionnelle. Il y a des vraies propositions, très diverses. Voilà. Après, comment les uns et les autres s'en emparent, ça, c'est une question importante. Hein. C'est comment on travaille ensemble. Et au-delà de comment on travaille ensemble, c'est comment on apprend à travailler ensemble. Ça, ils l'ont bien souligné. Ça veut dire qu'il y a des enjeux d'apprentissage du travail ensemble, et il y a des enjeux de formation aussi qui sont importants. Il y a des cultures professionnelles qui sont un peu en tension ou qui viennent se télescoper. Et donc là, il y a certainement quelque chose aussi à réfléchir au niveau de la formation. Mais voilà, des professionnels qui ont envie manifestement de développer de nouvelles manières de travailler ensemble. Enfin, moi, sur les deux jours, je trouve que c'est assez, assez net. Il y a beaucoup d'envie.
Merci. Voilà, moi je voulais revenir sur quelque chose qui me tient à cœur dans mes recherches et puis qui nous tient à cœur dans ces journées, puisqu'elles s'appellent les journées sur l'enfance au quotidien. Donc je voulais revenir sur les enfants et les jeunes au cœur de, voilà, au cœur finalement de, eh ben, de cette problématique de la continuité. Parce que penser la continuité éducative, c'est bien penser quelque chose pour ces enfants et ces jeunes, aussi bien y réfléchir que en tant que chercheur, hein, mais aussi en tant que professionnel, trouver des manières de prendre en compte. Enfin, il me semble que ça suppose de toute façon de souhaiter être attentif aux enfants et aux jeunes, qu'on soit du côté des chercheurs que des professionnels. Alors ça veut dire quoi finalement être attentif? Ça se traduit comment et ça suppose quoi? C'est un peu ce qu'on a essayé, enfin ce que chacun des participants ici, lors de ces deux journées, a essayé de faire, il me semble. Concrètement, comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces enfants et ces jeunes? Comment on peut leur donner la parole? Et au préalable, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, hein, sur quoi est-ce qu'on peut être attentif sur le terrain pour les prendre en compte? Quelle place on peut leur donner? Quelle place déjà on leur donne habituellement? Et comment on peut faire évoluer cette place? Et par conséquent, la place qu'on lui donne est forcément en fonction de la représentation qu'on a de ces enfants et ces jeunes. Alors, quelques exemples voilà, que j'ai essayé de piocher dans ce que j'ai entendu. Dans la conférence de Nathalie Roucoux, hier, sur les loisirs des enfants et des jeunes, on a senti sa volonté de faire la part belle à l'initiative des enfants, hein, puisqu'elle a proposé que les situations de loisirs soient plus à l'écoute des goûts, nous a-t-elle dit, et des objectifs de chaque enfant, hein, qu'ils soient davantage conçus, que ces situations de loisirs soient davantage conçues comme des contextes informels, je reviens sur cette notion qui a été travaillée aussi dans la dernière conférence, des contextes informels d'activité et d'apprentissage, hein, ces moments de loisirs, finalement, les pensées, ces moments de loisirs, d'activité extrascolaire des enfants, selon aussi un modèle que l'on voit se mettre en, qui est en place dans les familles, hein, mais qui est en place aussi dans les relations entre enfants. Donc, quelque chose qui s'appuie sur ces formes plus traditionnelles de manière d'être ensemble. Et ça a encouragé finalement, elle a encouragé aussi Nathalie Roucoux à ce que les adultes soient les garants d'un fonctionnement libre du jeu, plus que des animateurs, elle a insisté sur ces termes, un terme d'animateur qui encadre, hein, donc là on voit bien dans le fait d'animer des enfants et non, ouais, ou de les encadrer, ce que ces mots révèlent sur la position occupée le plus souvent par ces professionnels du loisir enfantin. Donc, en écoutant Nathalie Roucoux, il me semblait que on se dit que la continuité pourrait être aussi la continuité que les enfants et les jeunes construisent eux-mêmes, hein, être attentif à cela, à la manière dont eux construisent aussi cette continuité. Elle a posé à un moment la question de la continuité de quoi, hein. Voilà, est-ce qu'on parle de continuité de parcours? Elle a posé cette question-là. Elle désigne peut-être dans son propos la continuité de vie qui tienne compte des personnalités et des goûts des enfants. Il me semble que c'est ça aussi qu'elle avait à cœur de nous dire. Dans la proposition de Stéphanie Ruby, dans sa conférence sur les ludothèques, donc, elle nous a montré, pour partir toujours de ce point de vue des enfants et des jeunes, elle nous a montré comment ces ludothèques peuvent modifier les relations sociales, les statutaires entre parents et enfants, mais aussi entre les enfants d'une même fratrie qui viennent ensemble à ces ludothèques, parce que ces ludothèques proposent un cadre de jeu sur lequel s'appuient les enfants, hein, d'autant plus que ce jeu, c'est bien une de leurs compétences. Hein, on est bien sur une culture enfantine, des savoir-faire ludiques qu'ils pratiquent entre pairs de manière habituelle, quotidienne. Donc, on comprend d'autant mieux qu'on puisse ici s'appuyer sur leur domaine de compétences pour les mettre dans une position d'être moteurs. Hein. Et on constate qu'ils sont moteurs, hein, puisqu'ils permettent de modifier certaines relations sociales et statutaires. Donc, voilà, moteur pour induire une place et un rôle des parents différents, par exemple, en proposant aux parents d'intervenir dans le jeu, de jouer avec eux. On a vu aussi, hein, ce cas particulier dans la fratrie, comment cette situation de jeu permet à un cadet de s'extraire parfois de l'ascendance de l'aîné en résistant à ses sollicitations. Donc voilà, des situations de jeu qui sont particulièrement intéressantes. Dans la table ronde C, c'est-à-dire une des deux tables parallèles, celle que j'ai suivie autour des loisirs, des jeux et culture, les professionnels ont donné à voir comment prendre en compte les enfants et les jeunes dans les dispositifs qu'ils nous ont présentés et recueillir leur point de vue sur les activités proposées, puisque voilà, les différents dispositifs qu'ils nous ont proposés, effectivement, étaient dans cet esprit-là, hein, de les impliquer et de prendre en compte ce point de vue des jeunes. Eh bien, cela suppose de leur donner une place dans la construction des projets, hein, donc quelque chose qui se fait déjà au moment de cette construction. Et puis, ils ont souligné aussi le fait de ne pas les enfermer dans des cases, ces jeunes, en leur proposant j'allais dire, un produit tout fait ou un itinéraire tout fait, aller voir telle sociologue, telle personne du travail social, tel éducateur, etc. Mais en constituant davantage un réseau de professionnels ressources pour ces jeunes, et ensuite de laisser une certaine marge de manœuvre dans ces jeunes pour aller solliciter un tel ou un tel. Ils ont aussi insisté sur l'inventivité que tu as déjà souligné, Nathalie, inventivité notamment pour faire évoluer ces cases qu'ils remettaient en question, donc. Par exemple, Stéphane Passé a parlé d'un outil innovant conçu pour aller à la rencontre de jeunes qui ne se dirigent pas d'eux-mêmes vers les institutions ou les activités proposées. Hein, on a parlé aussi de ça, capter ce qu'on a du mal à capter. Et donc ce dispositif, cet outil innovant qui s'appelle les promeneurs du net, hein, qui consiste pour des professionnels à aller trouver les jeunes sur les réseaux pour essayer de se mettre en contact avec eux. Donc, ils nous ont bien exposé comment faire preuve de souplesse et d'adaptation pour que les enfants et les jeunes s'impliquent dans les activités qu'on leur propose. Dans la table ronde de ce matin sur le handicap, on a pu mettre l'accent aussi sur les enfants et les jeunes. On nous a rappelé comment dans la loi de 2005, on emploie le terme de « personne » et non plus d'usager pour insister sur le fait qu'on a un autre être humain en face de soi. Jean-Marc Rimbert a présenté donc l'Institut du MEC qui a même pris la décision d'employer le terme de client, hein, bon alors voilà, qui peut faire polémique, et non d'usager, mais il a bien expliqué comment l'intention de ces professionnels de l'Institut du MEC, à travers ce terme de client, visait à bousculer le regard des professionnels, c'est-à-dire de concevoir les enfants et les jeunes comme des personnes qui ont des droits, des projets, qui ont une expertise aussi, c'est revenu dans la bouche de différentes personnes de ces journées. Voilà, des droits, des projets, des expertises qui se confrontent et s'opposent parfois à ceux des professionnels. Ils nous ont donc invités à les prendre en compte. Et puis, pour terminer, hein, dans la communication proposée par Valérie Melun tout de suite, on a eu aussi, il me semble, un bel exemple de la manière de faire évoluer la place donnée aux jeunes. On a pu être marqué par le fait que ce micro-lycée de Sénart est né, vous l'avez souligné, suite à un colloque donc, sur les lycéens décrocheurs, et avait comme idée de départ que les décrocheurs sont des révélateurs, tu l'as repris, Diane, des révélateurs de dysfonctionnement de l'institution scolaire. Donc là, c'est vraiment les lycéens décrocheurs comme ressource pour initier un changement. Autrement dit, il s'agit bien de faire entrer l'institution dans un processus réflexif et un processus de transformation des normes qui s'appuie sur l'expérience des jeunes, sur leur mode d'agir, sur, elle nous l'a signalé, les apprentissages buissonniers qu'ils ont pu avoir dans des contextes informels, et en valorisant ces apprentissages qui ont participé à construire leur identité, hein, je reprends ces termes. Donc par exemple, on l'a entendu, il s'agit de partir de leur statut social de chef de bande ou de la participation périphérique légitime, voilà. Et j'ai été aussi sensible ici à la question de la terminologie qu'on a retrouvée, hein, où il s'agit de parler de personne et du rapport de personne à personne. Ils n'ont pas d'enseignant à élève, par exemple, pour essayer d'avoir une représentation de la relation, non pas verticale, mais interactive. Voilà. Et voilà, donc, par conséquent, et pour finir, il me semble que la continuité suppose que les professionnels soient non seulement dans une relation d'écoute entre eux, de travail entre eux, sur laquelle tu as insisté, Nathalie, mais elle a été présentée aussi, cette continuité, comme une manière de penser les enfants et les jeunes et de faire évoluer notre représentation de cela et notre relation à eux, donc de sortir d'une relation verticale qui impose, dans le sens où elle impose, que l'on soit parent ou que l'on soit professionnel, et d'être davantage dans cette relation d'interaction ou de dialogue, interaction et dialogue, pour reprendre le thème EGED, donc des enfants et des jeunes, et des adultes en interaction et en dialogue. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci. Donc on peut encore prendre un dernier petit moment d'échange informel entre nous, puisque normalement, si tout va bien, on a une pause, une dernière pause café qui nous attend. Voilà. Merci à vous de votre présence.
Merci à vous.